c'est marrant. Enfonce pif deux fois. Tout à fait. Quoi d'autre? Enfant spirituel de Paul.
Il a reçu deux lettres de Paul.
Reçu deux lettres, oui, tout à fait. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je n'en ai jamais eu. Non, 40 non plus, hein, a priori. Reçu deux lettres de Paul.
Ouais, c'est vrai. Je vais écrire un tout petit peu plus gros.
D'accord. Les prochains coups, j'écris à vous, promis.
Merci.
Ouais, c'est parfait, ouais. Merci beaucoup.
Quoi d'autre?
Il a écrit, ou en tout cas, il était avec Paul quand Paul a rédigé des lettres.
Oui. Par
exemple, Colossiens.
Timothée a rédigé des lettres avec Paul, tout à fait.
Il est au Seigneur par sa grand-mère et sa mère.
Oui,
il avait ses fils.
Mère et grand-mère dans la foi. Il marche pas bien, vous voyez rien du tout. Ça ira peut-être mieux. Je ne réglais pas tout. Hein,
Il a voyagé avec Paul aussi.
Il a voyagé avec Paul, ouais, tout à fait.
On connaît quoi en tant que jeune homme?
On connaît en tant que jeune homme, ouais.
Est-ce que c'était pas un des plus jeunes prédicateurs, justement, d'une autre femme?
C'est possible, ouais. C'est quand on rencontre la première fois, on en viendra, mais il a une vingtaine d'années à peu près. Ouais. À peu près tout? C'est pas grave, hein, on va compléter, puis il y a déjà pas mal de petites choses. Donc, c'est rigolo, mais la première pensée qu'on a souvent quand on dit le mot Timothée ou le nom Timothée, c'est de l'associer automatiquement à Paul. La première chose à laquelle on a pensé, je crois que c'est Joe qui l'a dit, et je pense que chacun d'entre nous, on l'aurait peut-être dit tout de suite, enfant spirituel de Paul. Et c'est vrai qu'il y a un peu un jeu d'ombre et de lumière entre Timothée et Paul. C'est-à-dire, d'un côté, Timothée reste beaucoup dans notre image, en tout cas dans l'ombre de Paul, c'était l'enfant spirituel de Paul, on y reviendra, c'était le disciple de Paul par excellence, on va dire. Et c'est vrai qu'à côté d'un leader très charismatique comme Paul a pu l'être, et qui a marqué de façon forte la foi chrétienne, c'est Paul qui a mis en place toute la doctrine finalement quasiment de la foi chrétienne. Timothée, qui a un caractère peut-être plus effacé, on a plus de mal à le voir comme un exemple à suivre. Paul, oui, un grand exemple. Timothée, dans l'ombre en fait. Mais en même temps, Paul met souvent Timothée en lumière. Comme ça a été dit, Timothée a écrit des lettres avec Paul. Il a co-signé 6 des 13 lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Donc presque la moitié des lettres qu'on attribue à Paul uniquement sont en fait co-signées avec Timothée. Donc, à plusieurs reprises, Paul a mis en avant le ministère de Timothée, précisant qu'il était son disciple plus cher, son disciple plus fidèle. Donc Paul a souvent mis en lumière Timothée. Et ce soir, justement, le but, c'est aussi d'essayer de mettre un peu plus en lumière le modèle qu'est Timothée. Un modèle, c'est un peu le titre que j'ai mis, un modèle qui est peut-être plus à notre dimension que peut l'être un Paul. Quand on pense à Paul, on pense à un leader très charismatique, quelqu'un qui a fait des choses vraiment extraordinaires pour Dieu. Et peut-être Timothée, c'est peut-être un modèle à plus à notre échelle, en sachant que quand on va lire un peu ce qu'il a fait, il a quand même vécu des choses extraordinaires aux côtés de Paul, il a vécu des choses extraordinaires aussi lui-même, personnellement. Mais peut-être un modèle plus à notre dimension, en tout cas. Donc si on commence, hop, son enfance, l'enfance de Timothée. Le nom de Timothée apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Actes, en Actes 16, verset 1. Alors celui qui a Actes 16, verset 1 dans son petit papier, il a gagné le droit de le lire. Normalement, il a été distribué. Actes 16, verset 1. Tu as 2? Oui, il y a Actes 16, verset 2 aussi. J'ai 1, bah vas-y, jeune.
Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec.
Merci. Donc Paul parvient jusqu'à Lystre. On verra après où c'est exactement. C'est dans l'Asie mineure. Donc vous voyez quelques photos de la ville d'époque, a priori. À peu de choses près, en tout cas. Et c'est la première fois qu'on entend parler de Timothée. Le nom de Timothée signifie « honneur à Dieu ». On y apprend en tout cas que Timothée habite la ville de Lystre. On y apprend quoi aussi dans ce simple verset ? Qu'il a un père. De quelle origine ? Parce qu'il a un père, je pense que c'est normal. Un père grec, donc un païen. On ne sait rien, absolument rien d'autre sur ce père. Il semble qu'il est sans doute décédé durant l'enfance de Timothée, en tout cas avant que Paul le rencontre et qu'il l'emmène avec lui dans ses voyages. On ne sait rien de plus. Un père grec, donc un païen, sans doute quelqu'un qui ne connaissait pas l'évangile, et une mère juive, qui s'appelle Eunice, et avec sa grand-mère, donc Loïs, comme le disait Benjamin, elles se sont aussi converties, et c'est elles qui se sont occupées de l'éducation de Timothée. Et ça, on peut le lire dans 2 Timothée 1, verset 5. Celui qui a 2 Timothée 1, verset 5, veut bien le lire.
Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Loïs. À présent, elle habite aussi en toi. Je suis pleinement convaincu.
Merci. Donc une mère juive, une grand-mère juive, mais qui se sont converties aussi au christianisme, qui avaient aussi cette foi, la même foi qui habitait Timothée. Une simple remarque par rapport à ces deux femmes, le fait qu'elles portent des noms grecs, parce que Eunice et Loïs, ce sont des noms grecs, pas juifs, ne veut pas dire qu'elles étaient hellénistes, que c'était des juifs, c'était vraiment des juifs, mais souvent, à cette époque-là, les juifs qui habitaient en dehors de la Palestine, qui habitaient en Grèce, prenaient des prénoms grecs, comme va le faire Paul plus tard. Donc ce sont des vrais juifs, de vrais juifs, toutes les deux. Un père grec, une mère juive, ça va être un sacré atout pour Timothée par la suite. Pourquoi ?
La circoncision,
on y reviendra après. Il n'a pas été circoncis, Timothée, tout de suite.
Vous connaissez peut-être le grec ?
Vous connaissez peut-être le grec, tout à fait. Les deux cultures. Et c'est un gros avantage, comme Paul aussi, qui va connaître ces deux cultures. Paul, qui est romain et qui, en même temps, a eu une éducation auprès de Gamaliel. Donc, Timothée avait la même façon, le même accès aux deux cultures, culture juive et culture païenne. Et comme Paul, la première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une nouvelle ville, c'est d'aller dans une synagogue, Timothée pouvait accompagner Paul dans la synagogue et comprenait le système de la synagogue. Et en même temps, quand Paul s'adressait à des païens, Timothée était aussi capable de leur parler. Donc c'était un gros, gros avantage naturel, on va dire, pour lui. Comme pour Paul. D'ailleurs, j'ai oublié. Vous m'en voudrez pas, c'est parfois. J'oublie. Une chose en tout cas importante qui ressort simplement de son enfance, c'est que sa mère et sa grand-mère ont mis Timothée au contact de la foi. C'est quelque chose d'important. Et si quelqu'un veut bien lire 2 Timothée 3, verset 15, qui souligne cela, que la mère et la grand-mère de Timothée l'ont éduqué dans la foi.
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Merci. Donc, Timothée a été éduqué dans la foi dès son enfance par sa mère et sa grand-mère qui étaient croyantes. Elles l'ont instruit dans les connaissances de l'Ancien Testament sans pour autant le circoncire. Parce qu'on va voir plus tard que Paul l'a circoncis avant de le prendre avec lui. On verra pourquoi aussi. Et je me pose la même question que Reynald s'était posée peut-être dimanche dernier. Qu'en est-il pour nous ? Est-ce que nous suivons l'exemple, pour ceux qui sont parents, l'exemple de Nice et de Loïs avec Timothée, est-ce que nous cherchons à transmettre la foi à nos enfants ? Parfois on entend, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà entendues, moi c'est des choses que j'ai déjà entendues, certains qui se disent, non, il ne faut pas transmettre la foi avec nos enfants comme ça, il faut leur laisser la liberté de découvrir. Il ne faut pas les forcer ou leur apprendre forcément les choses de Dieu. Loïs et après Eunice n'ont pas suivi ce chemin. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit cela ?
Il faut qu'il connaisse les deux, d'accord.
Il faut qu'il connaisse la voix de Dieu parce que sans le monde ne lui apprendra pas.
C'est vrai, tout à fait, oui, d'accord.
Le monde se chargera de lui ôter sa liberté.
C'est vrai.
Il a déjà ôté d'ailleurs.
Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Moi, il y a 4 chiffres qui m'ont marqué. Je vous ai donné je suis tout à fait d'accord avec vous, mais 4 chiffres qui peuvent aider. Je vais mettre. 86%.
Hop.
Moins de 15 ans. Et l'autre, c'est 85%. Moins de 6 ans. Qu'est-ce que c'est que ces 4 chiffres? D'après les statistiques, 86% de ceux qui se déclarent chrétiens évangéliques sont convertis ou ont fait un pas décisif dans leur vie avec le Seigneur avant 15 ans. 86%. L'autre, c'est des psychiatres de médecine qui affirment que je ne dise pas de bêtises, que la personnalité de l'adulte est formée à 85% avant l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, pour mes deux aînés, Tom et Laurine, déjà 85% de ce qu'ils sont adultes est fait. Donc, j'ai du souci à me faire. J'ai foutu. Mais pour marquer, en tout cas, moi, ça m'a marqué ces deux chiffres parce que on voit que une simple période de l'enfance, tout jeune, ça marque toute la suite de la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des exceptions, ça peut dire qu'il ne peut pas y avoir des guérisons, mais dans un cas général, la grosse partie de ce qu'on sera adulte, c'est déjà fait à 6 ans, ce qu'on va être, comment on va être. Et la plupart des chrétiens connaissent le Seigneur avant l'âge de 15 ans, donc dans leur jeunesse, dans leur enfance, pour beaucoup. En tout cas, font un pas décisif avec le Seigneur. Quand on ne peut pas passer devant ces chiffres-là sans avoir de réflexion par rapport à nos propres enfants, par rapport aux enfants qui fréquentent notre église, parce que je pense que, vu ces chiffres-là, oui, bien sûr qu'il faut leur annoncer l'évangile, bien sûr qu'il faut les éduquer dans la foi chrétienne. Et quelque part, souvent, certains donnent l'excuse comme quoi c'est du bourrage de crâne. Mais quelque part, si on ne bourre pas le crâne avec l'évangile, le monde se chargera de bourrer le crâne avec plein d'autres choses qui ne sont pas à l'honneur de Dieu. Et je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui doit être prioritaire dans nos vies pour nos propres enfants et pour les enfants qui fréquentent cette église, de leur annoncer l'évangile clairement, parce que beaucoup de choses, beaucoup de décisions sont peut-être prises à cet âge-là, peut-être reportées après quelques années aussi, c'est possible. Mais il y a des choses décisives qui se passent à l'enfance. Et pour Timothée, ça a été le cas quelque part. Et en même temps, donc comme je disais, Eunice et Loïs n'ont pas fait circoncire leur fils, peut-être par rapport vis-à-vis de leur papa grec, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, il n'y a pas eu cette obligation, ce fait de forcer l'enfant à un geste qui n'est pas même à comprendre, comme peut être le baptême pour les enfants, comme peut être peut-être d'autres décisions qu'on voudrait leur faire prendre, mais qu'ils ne sont pas capables de prendre peut-être. Peut-être parfois, il faut aussi un peu de sagesse, ne pas vouloir forcer les enfants à prendre une décision qu'ils ne sont pas capables de prendre ou qu'ils ne veulent pas prendre pour l'instant, parce que c'est l'hypocrisie sinon. C'est ce que je veux dire. Et je trouve qu'à travers ces deux femmes, Eunice et Loïs, on voit un bon exemple d'éducation sans forcément forcer dans un engagement qui n'était pas à prendre pour Timothée à cet âge-là. Si on poursuit, la conversion de Timothée. Donc elle se passe à Lystre. Alors Timothée habite donc ici, à Lystre. On voit le premier voyage de l'apôtre Paul, donc qui est parti d'Antioche, qui a fait tout le tour ici, grosso modo. Il est arrivé jusqu'à Derbe. Bon, là c'est une hypothèse, mais c'est pas vraiment la réalité. Il est revenu par là, il est revenu jusqu'à Antioche. Ça a été son premier voyage missionnaire. Et donc, c'est lors de ce premier voyage que Paul, qui était accompagné de... Non, deuxième voyage, Silas. Barnabas et un autre. Bon, Jean-Marc, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Barnabas et Jean-Marc. Il arrive à Lystre, donc en pleine contrée païenne. Quand il arrive à Lystre, habituellement, comme je disais avant, la méthode de Paul, c'était de d'abord s'adresser aux synagogues. Et dans une synagogue, présenter le message de l'évangile. Parce que les juifs étaient plus à même de comprendre le message de Christ. Le problème, c'est qu'arrivé à Lystre, il a eu un petit problème. Il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas assez, pour avoir une synagogue, il fallait, je crois, 10 hommes juifs. Il n'y avait même pas 10 hommes juifs dans cette ville. Donc vraiment une contrée païenne, où il n'y avait pas de manière pour Paul d'évangéliser comme il le faisait habituellement. Qu'est-ce qui va se passer? Paul et Barnabas vont quand même annoncer la bonne nouvelle suite à la guérison miraculeuse d'un boiteux dans cette ville précise de Lystre. Et c'est sans doute à l'occasion de cette première visite de Paul à Lystre, pendant son premier voyage, sans doute suite à l'annonce de l'évangile après la guérison de ce boiteux, que Timothée, avec d'autres disciples, s'est converti à l'évangile. Parce qu'il est dit, quand Paul et Barnabas ont quitté Lystre, il y avait une église qui fonctionnait. Une église, c'était peut-être pas 300 personnes, mais il y avait une église, il y avait des chrétiens qui étaient là. Donc c'est Paul qui a amené Timothée à la foi. Et on le comprend mieux que par exemple dans 1 Corinthiens 4:17, il dit, il parle de Timothée, il dit « Mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ». Dans 1 Timothée 1:2, il dit « Mon véritable enfant dans la foi ». Donc c'est Paul qui a amené Timothée à la foi. Alors nous ne savons pas exactement ce qui a amené Timothée à la foi, mais la guérison miraculeuse de ce boiteux et aussi les incidents qui ont suivi ont sans doute marqué sa foi. Est-ce que vous vous souvenez des incidents qui ont suivi? C'est un peu, c'est dans Acte 14 qu'on retrouve ça. Paul et Barnabas guérissent un boiteux. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe après? On les idolâtre, tout à fait. On les idolâtre. On pense que Paul est Hermès et Barnabas Zeus et on les idolâtre. Et Paul et Barnabas disent tout. Non, on est des hommes comme vous. Et quelques juifs venant juste de la ville au-dessus d'Iconium arrivent à ce moment-là et ils arrivent à changer la vie de tout le monde pour lapider Paul. Paul qui est lapidé dont le texte nous dit il était comme mort. En tout cas, ceux qui l'ont lapidé le pensaient être mort, pensaient qu'il était mort. Sont quittés et puis Paul s'est relevé. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, Paul a été lourdement persécuté dans cette ville-là. Ça a été vraiment quelque chose de particulier et on peut penser que sans doute Timothée a été marqué par cela, de voir une guérison et la main de Dieu bienveillante et en même temps ce qu'il en coûtait de suivre Dieu, notamment à cette époque-là, la persécution que Paul a pu vivre à ce moment-là. Donc, Timothée a été tout de suite mis au fait de la grâce merveilleuse de Dieu, mais aussi du prix qu'il en coûtait de suivre Dieu et d'obéir à son appel. Quelque temps plus tard, donc, Paul retourne, fait le tour et retourne à Antioche. Il est à Antioche pendant un an à peu près, et Paul décide de repartir pour un deuxième voyage. Il est donc à Antioche, et là, Paul, pour ce voyage, donc, décide de partir avec Silas. Et aux côtés de Silas, la première chose, la première idée qu'ils ont avant de partir dans des contrées païennes, c'est de retourner voir les églises qu'ils ont fondées lors du premier voyage missionnaire. Donc à Derbe, à Lystre, à Iconium, notamment. Et donc, ça va être leur premier objectif de leur deuxième voyage. Et Paul, donc, avec Silas, va se retrouver à Lystre. Il retrouve Timothée, donc, environ un an après sa conversion. Un an après avoir quitté Lystre pour retourner à Antioche. Que s'est-il passé dans la vie de Timothée pendant cette année? C'est Acte 16, verset 2 qui nous répond à cette question. Une simple phrase. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Acte 16, verset 2, celui qui a le papier?
Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup bien de lui.
Voilà tout ce qu'on sait. Les frères de Lystre et d'Iconium, donc les frères des églises, disaient, Acte 16, verset 2, disaient beaucoup de bien de Timothée. Donc, soit de manière spontanée, soit en réponse aux questions de Paul, ses frères, en tout cas, rendaient un bon témoignage de Timothée. Ils n'avaient rien à dire de négatif à son propos. Et je crois qu'on voit qu'une fois converti au christianisme, Timothée n'a pas tardé à montrer son service pour Dieu, son action bienveillante auprès des frères et sœurs de l'Église, sa vie consacrée, les bonnes dispositions dont il faisait preuve dans l'Église. Pour que des frères et sœurs en Christ puissent donner un bon témoignage de Timothée, c'est qu'il était quelqu'un de valable dans l'Église. C'était quelqu'un qu'on appréciait à sa juste valeur. Et Timothée, donc, on peut dire, a fait ses preuves dans l'Église de Lystre et d'Iconium. Dans l'assemblée où chacun pouvait l'observer, pouvait observer sa vie, pouvait observer son comportement, la conclusion était une bénédiction par rapport à Timothée. C'est un frère dont on peut dire du bien de lui. Il a été fidèle dans son assemblée, Timothée. Maintenant, il peut être fidèle au loin, quelque part. Ouais.
Je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce qu'on sait combien de temps il est resté là dans l'assemblée
ou... Timothée ou Paul?
Tu parlais de Timothée.
Timothée, oui. Timothée, entre le premier voyage et le deuxième voyage, grosso modo un an. Donc ça fait un an à peu près que Timothée est converti et dans l'église de Lystre, quand Paul le rencontre et quand les chrétiens de Lystre affirment, donnent un bon témoignage de lui. Un an à peu près, un an de conversion. Et donc au bout de cette année, Paul le rencontre reçoit ces bonnes instructions pour Timothée, en faveur de Timothée. Et donc Paul décide de le prendre avec lui pour poursuivre son voyage. Pour prendre sa décision de le prendre avec lui, Paul s'appuie sur deux choses. La première chose, on vient de le voir, le bon témoignage de l'Église en faveur de Timothée. Je pense que c'était important pour Paul d'avoir ce bon témoignage, de voir que Timothée avait été fidèle dans son Église. Et une deuxième chose qui est importante, qui est un peu plus particulière, c'est que Paul s'est aussi appuyé sur une prophétie particulière vis-à-vis de Timothée. Si quelqu'un veut bien lire 1 Timothée 4,14, celui qui a le papier. 1 Timothée 4,14, merci Carole. Carole.
Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains.
Merci. Qui c'est qui confirmait le choix de Timothée par Paul? Premièrement, c'est qui l'a indiqué dans ce choix?
Les anciens de l'Église.
Les anciens de l'Église, ouais, les anciens de l'Église. Et en même temps, quelque part derrière cette prophétie, l'Esprit de Dieu, je pense, qui parlait d'une façon particulière à ce moment-là, puisque la Bible n'était pas écrite. Et donc, l'Esprit et l'Église allaient dans le même sens, concouraient dans le même sens pour confirmer à Paul qu'il pouvait prendre Timothée avec lui. Et je crois que c'était quelque chose qui a sans doute rassuré Paul, qu'il a en tout cas aidé dans son choix et sa décision de prendre Timothée avec lui. Et donc Timothée va suivre Paul et Silas suite à l'imposition des mains des anciens et aussi de Paul. On peut lire dans 2 Timothée 1, verset 6, si celui qui l'a veut bien le lire. De Timothée 1, 6.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Merci. Donc, l'imposition des apôtres, des anciens de l'Église, l'imposition de Paul qui va le prendre avec lui dans ce second voyage. La décision de suivre Paul n'a pas forcément été facile et aisée pour Timothée. Parce que d'abord, il semblerait que la séparation des siens, la séparation de son Église l'a sans doute attristé. On peut juste lire 2 Timothée 1, verset 4 par rapport à ça. On n'est pas sûr que ce soit par rapport à ce contexte-là, mais plusieurs le pensent, 2 Timothée 1, verset 4.
Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie.
Me rappelant tes larmes au moment de quitter. On pense que peut-être c'est référence aux larmes au moment de quitter. C'était la référence où Timothée a quitté son Église, quitté les siens, sa mère et sa grand-mère, peut-être qui étaient encore vivantes à ce moment-là, sans doute. Et c'est pour ça qu'il semble que Timothée, au moment du départ, de son départ, était sans doute très jeune, la vingtaine d'années à peu près, à ce moment-là, sans pouvoir fixer un âge précis. Quand il quitte l'église de Lystre pour suivre Paul. Deuxième chose qui fait que ça n'a pas été simple pour Timothée de partir quelque part, c'est acte 16, verset 3. Quelqu'un veut bien le lire?
Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec.
Merci. Donc le départ de Timothée de son église impliquait sa circoncision, un moment qui a sans doute pas dû être simple à vivre pour lui. Pourquoi Paul veut le faire circoncire?
Pour se faire tout à tous.
Ouais. C'était pas en vue de marquer un ministère particulier. C'était une concession qu'il faisait par rapport à un ministère auquel ils étaient appelés auprès des Juifs et des non-Juifs.
Oui, mais justement, il y avait les Juifs et les non-Juifs. Mm-hmm. Donc pourquoi il m'a toujours posé le problème, enfin,
parce que, à mon sens, je pense que ça ne posait pas forcément de problème aux non-Juifs de parler avec quelqu'un de circoncis, mais par contre, ça pouvait poser un problème aux Juifs de parler des choses de la loi et des choses de la Bible, enfin de la Bible. Ancien Testament, avec quelqu'un qui n'était pas circoncis.
C'est pas comme une œuvre un peu. Enfin, on voit Paul, il a tout fait pour que les gens étaient chrétiens, mais plus juifs. Donc, mm-hmm.
C'est pour ça qu'on peut pas se dire, vu ce qu'il dit notamment aux Corinthiens, Paul, où il montre bien que la circoncision n'est pas utile, on peut pas penser que Paul a fait circoncire Timothée pour des raisons. De vocation à ministère ou pour des raisons pour recevoir vraiment une grâce plus particulière à autre chose. Je pense que comme dit Philippe, c'est plutôt pour se faire tout à tous, pour plus facilement être dans la discussion avec des juifs, à mon sens. Tite était complètement grec. Ouais,
donc, tout à fait. Il n'a pas circoncis, parce que là, ça aurait posé problème vis-à-vis des juifs.
Tout à fait, c'est vrai, ça aussi. Ouais. Il n'a pas eu le même comportement vis-à-vis de Tite ou vis-à-vis d'autres de ses disciples.
C'est d'autant plus curieux que ça succède juste au concile de Rome.
Ouais.
Il a été discuté de cette question.
C'est vrai.
Il a été décidé de ne pas, justement, se
faire. C'est vrai. Quelles que soient les raisons, je pense qu'on est clair que c'est pas pour avoir une bénédiction particulière, pour avoir une grâce particulière pour son ministère que Timothée a été circoncis dans tous les cas. Par la suite donc, Timothée a suivi Paul et Silas dans leur dans ce second voyage. Pendant que Timothée avait demeuré pendant cette année, une année entière à Lystre, les membres de l'Église, en tout cas, avaient pu voir sa croissance spirituelle. Ils pouvaient rendre un bon témoignage de lui. Et je crois qu'on voit, en tout cas, on va le voir dans la suite, que cette même dynamique spirituelle a habité Timothée encore tout le long du voyage qu'il a pu vivre, des voyages qu'il a pu vivre aux côtés de, Paul et de Silas. On distingue, en tout cas, deux phases dans son parcours aux côtés de Paul. Deux phases différentes dont Paul va utiliser Timothée. D'abord, Timothée va être quelque part un simple accompagnateur de Paul. Timothée va suivre Paul, tout simplement, et Silas, pour les aider dans leur ministère au début. Sans mission particulière, un simple accompagnateur, un accompagnateur utile, mais qui avait sans doute un rôle, peut-être à la Jean-Marc, comme Jean-Marc lors du premier voyage. Jean-Marc, donc, le cousin de Barnabas, qui était parti lors du premier voyage. Un rôle un peu de ce type-là, d'aide, de camp, de soutien, sans doute... plus aussi, mais un accompagnateur. Et même si il accompagnait Paul et Silas, on peut vite voir que ce voyage, que c'était pas un voyage d'agrément, c'est pas un voyage touristique qu'il a fait avec, à leur côté, au contraire, bien au contraire. Surtout pour quelqu'un qui débutait comme lui, les premiers temps ont dû être encore plus compliqués. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé suite à la venue de Timothée avec Paul et Silas. Dans un premier temps, l'équipe missionnaire a traversé la Galatie et la Phrygie sans vraiment savoir où il fallait qu'ils aillent. Et tout ce que nous dit les actes de cette période entre Lystre et Troas, c'est que par deux fois, Paul et Silas, avec Timothée, voulaient aller à un endroit, et par deux fois, l'Esprit, on ne sait pas comment, leur a dit que non, il ne fallait pas aller là-bas. Donc c'est une équipe qui savait, qui était à l'aveugle un peu, qui avançait sans savoir vraiment vers où. Et de cette période-là, la Bible nous donne à voir aucun fruit visible. Donc imaginez-vous Timothée qui démarre avec eux, les gars ils ne savent pas où ils vont, a priori il n'y a aucun fruit, il y a de quoi se demander, mais qu'est-ce que je suis allé dans cette galère. Heureusement, à Troas, Paul a une fameuse vision, la vision d'un Macédonien qui va amener Paul à partir pour la Macédoine, donc pour l'Europe, pour évangéliser. Et une après les autres, ils vont faire Philippe, Thessalonique, Bérée, et dans chacune de ces villes, ils vont pouvoir apporter un témoignage. Dans chacune de ces villes, une église va naître, mais dans chacune de ces villes aussi, ils vont connaître la persécution. Et pour un jeune dans la foi qui démarrait, d'abord, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de fruit. Ensuite, il y a du fruit, mais il y a la persécution. Et je pense que c'est là où on peut voir peut-être que ça a été utile pour Timothée de voir l'exemple de Paul à sa conversion. Des fruits, mais la persécution. Et ça a dû le marquer aussi et l'aider. Et quand on fait le parallèle, je parlais de Jean-Marc avant. Jean-Marc, lors du premier voyage, il les a abandonnés au milieu à peu près du voyage pour repartir parce que on ne sait pas vraiment la raison, mais ça semblait trop dur pour lui. Timothée, au contraire de Jean-Marc, est resté fidèle, a gardé le cap dans ces moments compliqués où on ne sait pas où on va, où on se demande « mais qu'est-ce que tu veux faire, Paul ?» Dans ces moments où il y a la persécution, malgré les fruits, on se demande « que fait le Seigneur ?» Timothée a gardé le cap, lui. Il est resté fidèle. Et là, il a gardé cette dynamique spirituelle qui était la sienne auprès de l'église de Lystre où il rendait ce bon témoignage. Il a continué à rendre ce bon témoignage dans l'équipe de Paul et Silas. Par la suite, Timothée, qui était donc simple accompagnateur de Paul jusque-là, jusqu'à environ Béré, il va y avoir un petit souci à Béré qui va obliger Paul à quitter Timothée et Silas pour se rendre jusqu'à Athènes. Il va laisser Timothée et Silas à Béré et lui va devoir quitter rapidement Béré pour se rendre à Athènes. Silas et Timothée vont rejoindre Paul jusqu'à Athènes et à ce moment-là, Paul va décider de changer le service de Timothée, en tout cas dans l'équipe, et va l'envoyer en mission particulière à Thessalonique. Je pense, je ne sais pas, il n'y a pas de choses sûres dessus. Mais j'imagine que Paul a pu voir, en tout cas, le témoignage de Timothée tout le long de ce chemin où on ne savait pas où on allait. Il a pu voir le témoignage de Timothée à ses côtés dans la persécution. Maintenant, il peut demander à Timothée un peu plus. Il peut confier des missions particulières à Timothée en solo pour rejoindre, dans ce cadre-là, Thessalonique et avoir des nouvelles de l'Église. Parce qu'à Thessalonique, l'équipe de Paul avait dû partir rapidement. Et Paul voulait savoir ce qui se passait à Thessalonique. C'est pour ça qu'il envoie Timothée là-bas. On peut juste lire 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 6.
Juste une chose que je voulais dire, quand tu dis au début qu'il était simple accompagnateur, comme il était jeune, on peut penser qu'il était là pour faire les tâches.
Aussi.
Laver les linges.
Oui, tout à fait.
Faire vraiment porter les valises, les sacs et tout. Et en fin de compte, après, il a été fidèle dans ces petites choses. Et...
Tout à fait. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est vrai. 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 6. Celui qui l'a ou celle qui l'a.
C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi nous voir.
Merci. Quelle était la mission de Timothée auprès des Thessaloniciens? Ambassadeur. Prendre des nouvelles. Est-ce que c'était juste prendre des nouvelles?
Vous affermir et vous exhorter.
Ça allait plus loin. Vous affermir et vous exhorter. Il n'est pas simplement « Salut les gars, c'est quoi les nouvelles ?» Sa mission avait une portée bien plus grande. Celle d'affermir, d'exhorter. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un sur qui Paul pouvait vraiment compter. Quelqu'un qui avait les épaules assez solides pour vraiment être un soutien pour l'église de Thessalonique. Quelqu'un aussi dont on peut penser, vu la situation hostile de la ville à ce moment-là envers les chrétiens, qui possédait des qualités de souplesse, de tempérance, de médiation. En tout cas, quelqu'un qui pouvait vraiment être utile à Paul, à Dieu bien entendu, dans ce ministère. Donc après s'être acquitté de cette mission avec succès, Timothée a pu rejoindre Paul qui s'est déplacé à ce moment-là à Corinthe. On peut juste lire rapidement Actes 18, verset 5, qui nous montre ça.
Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ.
Voilà. Donc Paul qui était à Corinthe à ce moment-là, et donc Silas et Timothée qui le rejoignent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Timothée et Silas, avec Paul à Corinthe? On peut lire ça dans 2 Corinthiens 1, versets 18 à 19. 2 Corinthiens 1, 18-19. Personne n'a le papier?
Ah, si, c'est moi.
Ah, ben voilà, merci.
Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non.
Donc, le 19 aussi, ouais. Verset 19 aussi, s'il vous plaît.
Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui.
Merci. Donc, Timothée avait le même service que Paul et Silas à ce moment-là, prêcher l'évangile. C'était son rôle. Il n'était pas simplement là, peut-être qu'au début, il l'a été sans doute là, je suis d'accord avec toi Hélène, pour porter les bagages. Mais là, on voit en tout cas qu'il a l'action de prêcher l'évangile, au même titre que Paul et Silas. Et sans doute, a priori, il avait le même type de ministère et la même vision des choses que ses deux compagnons. Ce n'était pas Paul et Silas et Timothée derrière, c'était trois hommes ensemble. Un compagnon de voyage, tout à fait. Bien que la Bible ne le dise pas, on ne le sait pas, a priori, il semblerait quand même que Timothée a suivi Paul dans son retour avec Silas pour retourner jusqu'à Antioche pour finir ce second voyage missionnaire. Par la suite, Paul va à nouveau utiliser Timothée pour une mission spécifique, cette fois-ci à Corinthe. Paul est à ce moment-là, donc ils ont poursuivi leur troisième voyage. Paul est à ce moment-là à Éphèse. À Éphèse, il va y rester à peu près 3 ans, Paul, dans cette ville particulière où il a trouvé un grand peuple pour Dieu. Et il va confier une mission à Timothée, c'est un peu ce qu'on voit avec l'aller-retour là, pour aller à Corinthe. Quelle est la mission de Timothée à cet endroit-là? C'est qu'il y a beaucoup de malentendus qui persistent. Et on le voit dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Et Timothée doit prendre des nouvelles de l'Église, doit expliquer les choses et ramener les questions à Paul. Et si quelqu'un veut bien lire 1 Corinthiens 4, verset 17.
Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les Églises.
Voilà. Timothée devait enseigner, comme Paul pouvait le faire, ses principes de vie, c'est-à-dire principes de vie de la parole. Donc il était là aussi pour enseigner. Un exhortateur, un évangéliste, un enseignant aussi. Donc après être retourné auprès de Paul à Éphèse, Paul va poursuivre son voyage. Timothée est toujours présent avec lui lors de son voyage de retour qui les mène de Corinthe, de nouveau, jusqu'à Jérusalem. Et on peut juste lire Actes 20, verset 3-4, qui confirme cela, si vous voulez. Il y a toute une équipe à ce moment-là. Il n'y a pas que Paul, Silas et Timothée, mais vraiment une équipe complète. Qui voyage, qui fait le voyage de retour.
Il y fit un séjour de 3 mois et il était sur le point de faire voyage vers la Syrie. Mais à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychic et Trophime, originaires d'Asie.
Voilà. Donc Paul, à ce moment-là, fait un peu le voyage, il fait son voyage de retour. Il y a 7-8 gars avec lui, dont Timothée qui est là. Ensuite, la Bible ne nous dit pas si Timothée est monté jusqu'à Jérusalem avec Paul. On ne sait pas non plus, il n'est pas mentionné à propos de l'emprisonnement de Paul à Jérusalem, enfin Césarée, ni on ne sait pas non plus si Timothée a suivi Paul par la suite quand il est monté jusqu'à Rome. On ne sait rien de tout cela. Par contre, son nom est cité dans les épîtres que Paul a écrites lorsqu'il était emprisonné, lors de son premier emprisonnement à Rome. Philippiens, Colossiens, Philémon, ça fait partie des épîtres qui sont co-signés par Paul et Timothée. Donc Timothée est aux côtés de l'apôtre Paul à ce moment-là. Il semblerait qu'il y ait une troisième mission à ce moment-là que Paul a confiée à Timothée, celle de l'envoyer en mission à Philippe pour aller à un endroit où Paul ne pouvait pas se rendre de par son emprisonnement. Que quelqu'un veut bien juste lire Philippiens 2, verset 19. Celui qui a Philippiens 2, 19.
J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne.
Merci. Donc, si on fait le bilan, Timothée rend un bon témoignage à son église. Timothée accompagne Paul et Silas. Timothée est capable d'être envoyé en mission particulière par Paul, par l'apôtre Paul, en mission en solo. Et je crois qu'on voit dans ces différentes cases un peu l'école de Dieu, l'école que de Dieu pour Timothée à ce moment-là. Et on peut voir qu'il a pu parfaire sa formation dans cette école de Dieu, à travers la progression, une progression constante dans le ministère de Timothée. Et Timothée n'est pas un collaborateur plus ou moins obscur de l'apôtre Paul, mais était d'abord un vrai serviteur de Dieu qui a été utile dans bien des domaines et de façon différente, variée. La suite, la fin de sa vie à Timothée. Les dernières choses que nous savons sur la suite de la vie de Timothée proviennent des deux lettres que Paul lui a écrites personnellement. Lorsque Paul lui écrit sa première lettre, hein, Timothée, Paul vient juste d'être libéré de son premier emprisonnement à Rome. Vous savez, il était à Césarée, après il a fait un appel à l'empereur, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, et donc il a été envoyé sur Rome. Et donc Paul vient d'être libéré de ce premier emprisonnement à ce moment-là. Quand il lui écrit cette lettre, Timothée, il a plus 20 ans. On estime qu'il a entre 35 et 40 ans à peu près à ce moment-là, Timothée. Dans cette lettre, Paul lui confie en tout cas la charge importante de poursuivre un travail pastoral, cette fois-ci dans l'église d'Éphèse. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 1, verset 3 ? Donc Paul est à Rome, il vient juste d'être libéré. Timothée est à Éphèse, dans une église particulière au cœur de Paul. L'église où Paul a servi pendant 3 ans, une ville où Paul était pendant 3 ans.
Comme je t'ai exhorté avant de partir de la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines.
Merci. Donc dans cette église d'Éphèse, Timothée a dû s'opposer à de faux docteurs. C'est ce qu'on voit dans la première épître à Timothée. Coucou, rentrons. Il a dû donc s'opposer à de faux prophètes. Il a veillé à ce que chacun se conduise dans l'église d'une manière digne de Dieu aussi. C'est ce qui ressort de la première épître à Timothée. Et pour accomplir cette mission importante, il fallait sans doute à Timothée une connaissance exacte des pensées de Dieu, un attachement fidèle à l'Éternel. Et là encore, on voit le fruit qui se poursuit dans la vie de Timothée. Timothée qui est maintenant, qui a une charge pastorale, une charge d'ancien dans l'église d'Éphèse, qui doit conduire le troupeau. Dans la seconde lettre qui lui est adressée par Paul, de Timothée, donc la lettre qu'on étudie ces dimanches en prédication, Paul est à nouveau emprisonné à Rome. On ne sait pas dans quelles circonstances exactement il a été à nouveau emprisonné, mais c'est un deuxième emprisonnement qui vit à Rome. Un deuxième emprisonnement qui est beaucoup plus difficile sur différents points de vue. Et Paul, à ce moment-là, c'est un peu son testament spirituel, parce que Paul sait quelque part qu'il ne sortira pas de ce deuxième emprisonnement. Il va mourir là, à ce moment-là, bientôt. Et donc Paul réclame alors la présence de Timothée à ses côtés. Et on peut juste lire 2 Timothée 4, verset 9, par rapport à cela.
Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.
Donc Paul est un peu abandonné de tous. Et à qui il fait appel à ce moment-là? À Timothée. Timothée, ce disciple fidèle, toujours, toujours fidèle. Toujours cette fidélité dans le Seigneur, cette fidélité dans le service vis-à-vis de Paul aussi. Et enfin, la toute dernière mention biblique par rapport à Timothée, on la retrouve dans Hébreux. Hébreux 13, verset 23. Celui qui l'a peut le lire.
Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui.
Donc Timothée, à l'image de Paul, a été emprisonné. On ne sait rien de plus. On ne sait pas dans quelles circonstances. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'était quand Timothée a rejoint Paul à Rome, qu'il était emprisonné lui aussi à Rome et qu'il était libéré? Les suppositions, là, il faudra demander là-haut. On ne sait pas. Mais en tout cas, Timothée aussi a vécu l'emprisonnement pour sa foi, dans tous les cas. Sur la fin de sa vie de Timothée et sa mort, on n'a que des renseignements de valeur plus ou moins historiques. Un écrit tardif, les Actes de Timothée, veut qu'il soit mort martyr sous l'empereur Nerva. Comme on célébrait une fête païenne qui s'accompagnait selon la coutume de jeux sanglants et d'abominations en tout genre, Timothée aurait profité de cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle, comme Paul lui avait annoncé, lui avait conseillé. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, de Timothée 4, 2. Et fort de ses conseils, donc Paul, fort de ses conseils de Paul, Timothée aura annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce moment-là, devant une foule en délire, la conjurant de reconnaître le vrai Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il aurait été lapidé à coups de pierre. Mais ce n'est que plus ou moins historique, ce n'est pas la réalité. On pense à une mort martyre en tout cas. Voilà le parcours de Timothée. Et si je vous demandais quelques leçons pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous retiendriez de ce parcours, vous ? Quelles leçons vous retiendriez de Timothée ? Pas vu de défaut. Pas vu de défaut, mais pas vu de défaut spirituel. Plus ou moins. Pas dans sa vie. Mais
l'absence d'un père, déjà.
L'absence d'un père, oui. C'est pas un défaut lié à lui. Mais ce que Paul écrit, quand Paul écrit à Timothée, il dénote peut-être pas des défauts, mais quelque chose sur lequel on reviendra par la suite, juste dans les leçons, c'est des faiblesses. Des faiblesses de caractère, des faiblesses physiques aussi. Mais pas de défaut. C'est un homme qui a été toujours dans la droiture, toujours dans la fidélité. Pardon ?
Il avait une faiblesse, il ne buvait pas de vin.
Il ne buvait pas de vin, sa faiblesse, ouais, tout à fait. Il reviendra.
Il n'était pas français, on est sûr.
Il n'était pas français. C'est clair. Moi, la première leçon qui me saute aux yeux, c'est un peu ce que je pense dans la même idée, cette progression constante chez Timothée. Quand on voit Timothée au début, c'est un homme fidèle au sein de son assemblée, un homme dont on peut dire du bien, un homme qui est solide dans sa foi. Ensuite, c'est un fidèle compagnon de Paul, quelqu'un qui l'accompagne, qui était peut-être juste le porteur de valise, mais qui restait. Ensuite, quelqu'un à qui Paul a pu confier des missions particulières de soutien aux églises diverses et variées, des missions qui n'étaient pas simples, ce n'est pas la rigolade, au contraire, c'était bien des choses compliquées, complexes. Et enfin, on le voit, à charge d'une église, quelqu'un qui avait les épaules assez solides pour conduire une église, qui avait un rôle pastoral. Et moi, je me pose la question à moi-même, est-ce que c'est pareil pour nous ? Est-ce que nous avons cette même progression constante dans le service pour Dieu, à l'image de Timothée ? Est-ce que si quelqu'un de l'extérieur de l'église venait vous voir pour parler de Stéphane, ou pour parler de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y aurait le même bon témoignage qui serait rendu, comme pour Timothée ? Ou est-ce qu'on dirait juste c'est un bon gars, il ne fait rien de mal, rien de plus non plus. Timothée, on pouvait donner un bon témoignage de lui. Les membres de l'Église pouvaient donner un bon témoignage de lui. Est-ce que c'est pareil pour nous ? Est-ce que les membres de l'Église peuvent donner un bon témoignage de nous ? Un témoignage fidèle. Et aujourd'hui encore, je crois que nous avons besoin de Timothée. Nous avons besoin de jeunes frères qui ont la passion de Christ et qui donnent ce bon témoignage. Nous avons besoin de frères peut-être un peu plus expérimentés, qui peuvent proclamer la parole, qui peuvent parler autour d'eux de la parole. Nous avons besoin de frères peut-être encore un peu plus expérimentés, qui peuvent avoir une charge d'église, qui peuvent tenir, conduire une église. Je crois qu'on a besoin de Timothée, de gens comme ça, fidèles de cette manière-là. Et moi, c'est l'aspect qui m'a le plus marqué. Et pour nous aussi, je crois que pour Timothée, les années passent. Est-ce qu'on démontre cette même progression dans la foi, les années passant ? Deuxième chose, moi, qui m'a fait tilt, c'est que son ministère à Timothée a évolué. Il a pu exercer différents types de ministères. D'abord, second de Paul. Ensuite, mission particulière, proclamer l'évangile aussi. Et à un autre moment, responsable dans une église. Son ministère à Timothée a évolué dans le temps. Ça n'a pas été toujours la même chose. Et j'ai le sentiment parfois que peut-être on est un peu trop figé dans nos façons de penser. Parfois on se dit, j'ai 20 ans, je suis évangéliste, je suis pasteur, je me vois pasteur, je sais pas quoi. Mais ce sera toujours comme ça. Timothée et d'autres personnages du Nouveau Testament ne montrent pas forcément cela. Je pense que la variété de ministères, la diversité de dons, l'expérience allant aussi, Dieu peut nous confier des missions et des tâches différentes. Peut-être qu'il y a une certaine constance aussi dans le service qu'on peut apporter. Mais il peut y avoir des moments différents, des implications différentes. En tout cas, c'est ce qu'on voit, on remarque par rapport à Timothée, un ministère qui a évolué dans le temps. Et le ministère aussi est peut-être fait pour évoluer. Il ne faut pas forcément être figé dans un sens, à mon sens, par rapport à, en tout cas, de ce que je comprends du ministère de Timothée. Troisième point, où je reviens un peu à ce qu'on disait avant, les faiblesses. Les faiblesses de Timothée ne l'ont pas empêché de servir. Et ça, c'est une grande leçon, je crois, aussi. Et c'est dans ce sens-là, pour moi, que Timothée est peut-être plus un modèle à notre dimension que peut l'être l'apôtre Paul, où on a l'impression, Paul, c'est extraordinaire. Timothée n'aurait peut-être pas été le premier à qui on aurait pensé quand on aurait pensé à quelqu'un en vue du ministère, à quelqu'un pour suivre Paul et Silas. Il avait de très grandes qualités de fidélité, comme on l'a vu, de service pour le Seigneur, mais aussi de grosses faiblesses. Est-ce que quelqu'un veut bien lire 1 Timothée 4, verset 12 ? Celui qui l'a... Quelqu'un là ?
Ouais. Personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté.
Merci. Quand Paul écrit ça à Timothée, il n'a pas 20 ans. Hein. Il a entre 35 et 40 ans. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, peut-être à cette époque-là, 40 ans, c'était peut-être jeune d'une certaine manière. Mais quelque part, derrière cette notion que personne ne méprise ta jeunesse, peut-être qu'on peut voir aussi un manque de confiance personnelle, peut-être de Timothée en lui-même, en ses propres capacités. Paul l'encourage à ne pas manquer de confiance en lui-même. Deuxième chose, il semblait plutôt timide, réservé naturellement. Quelqu'un veut bien lire 2 Timothée 1, versets 6 à 8 ?
Oui. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés.
Merci. Donc Timothée, quelqu'un qui semblait d'une certaine timidité. Et dernière chose, quelqu'un qui semble de nature plus fragile en tout cas. 1 Timothée 5, verset 23. Le fameux verset de à propos du vin. 23, celui qui l'a.
Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions.
Fréquentes indispositions. Il semblait physiquement fragile, d'une certaine manière. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous diriez à un candidat au départ de mission qui semble manquer de confiance en lui, qui est timide, qui a une santé fragile ?
Viens avec moi.
J'espère. Mais alors après, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que le tableau noir. Il y avait aussi toutes les qualités de Timothée. Mais quelque part, c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier, le plus fort, celui qui montrait peut-être les meilleures prédispositions physiques ou au niveau du caractère que Paul a choisi pour le suivre. Mais celui qui montrait sans doute les meilleures prédispositions spirituellement, de fidélité.
Fidèle et capable.
Fidèle et capable, tout à fait.
Dans l'Ancien Testament, on voit bien les nombreux exemples tout à fait. Que Dieu a toujours choisi, souvent les plus faibles.
Ouais.
Et on voit
Et pourquoi ce choix des plus faibles, souvent ?
L'orgueil,
ouais. Ça montre quelque part que Dieu n'est jamais à bout de ressources. Il se sert des faiblesses. Et c'est même Paul qu'on voit comme le gars le plus fort qui soit, qui dit dans 2 Corinthiens que c'est dans ses faiblesses qu'est la force de Dieu réellement. Bon, c'est pas les bons mots dans mon sens, mais l'idée quoi. L'idée c'est que c'est vraiment à travers la faiblesse que Dieu montre sa puissance. Et je pense que un homme comme Timothée, avec ses faiblesses, a pu montrer la puissance de Dieu. Et ses faiblesses, en tout cas, n'ont pas empêché Timothée de suivre Paul. Et juste une petite histoire pour aller avec dessus, je trouvais que ça allait bien. C'est un vendeur d'eau qui, chaque matin, se rend à une rivière pour remplir ses 2 cruches. et partir vers la ville distribuer de l'eau à ses clients. Une des cruches est fissurée et perd de l'eau. L'autre est toute neuve et rapportait donc plus d'argent. La pauvre cruche fissurée se sentait inférieure. Et elle décide un matin de se confier à son patron. « Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l'argent à cause de moi, car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes faiblesses. » Peut-être quelque chose qu'on pourrait... parole qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Dieu. Enfin, on entend. Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle sa cruche fissurée et lui dit « Regarde sur le bord de la route. C'est joli, c'est plein de fleurs. » « C'est grâce à toi, réplique le patron. C'est toi qui chaque matin arroses le bas-côté de la route. J'ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai semées le long de la route. Et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour. Ne l'oublie jamais, nous sommes tous un peu fissurés. Mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. » Je trouve que c'est une belle image. Nous sommes tous un peu fissurés quand on y regarde, par rapport à la sainteté de Dieu. Certains avec plus de qualités, des défauts différents, mais tous fissurés vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Et Dieu utilise nos forces, nos capacités, bien sûr, mais il utilise aussi nos faiblesses pour sa gloire. Et je crois que Timothée le montre aussi. Et une dernière leçon, moi, que j'ai gardée par rapport à Timothée. Timothée, un enfant dans la foi, est devenu un adulte de la foi. On voit souvent Timothée, on pense à Paul. Et on pense à Paul comme un père omniprésent dans la vie de Timothée. Et Timothée qui est juste dans l'ombre de Paul. Et je ne crois pas que ce soit la réalité quand on regarde entre les lignes, quand on voit les missions particulières que Timothée a pu faire en solo, le temps qu'il est à Éphèse, seul, en dehors de la sphère de Paul. Timothée n'était pas simplement l'accompagnateur de Paul, il était le serviteur de Dieu indépendant vis-à-vis de Paul. Et parfois il peut arriver, quand on a un modèle de foi devant nous, quel qu'il soit, qu'on veuille une sorte de père spirituel, qu'on cherche trop à le copier, à copier sa conduite, jusqu'à mimer ses gestes, sa façon de parler, peut-être ses dadas théologiques même, et où en fait, on essaie de faire comme un sosie. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. On ne doit pas être le sosie de quelqu'un, fût-il utile à un ministère extraordinaire. On doit avoir son ministère et son service propre devant Dieu. Bien sûr, on peut avoir des modèles, bien sûr, on peut suivre des conseils.
Si on est un sosie, on est faux.
Mais si on est un sosie, on est faux, quelque part, oui. Tout à fait, c'est vrai. On n'est pas dans le plan de Dieu, on est dans l'idée qu'on veut du plan de Dieu pour nous. C'est vrai, tout à fait. Timothée, lui, a basculé, en tout cas, du modèle à l'indépendance vis-à-vis de Dieu, de l'apprentissage théologique auprès de Paul qui lui a appris toutes ces choses comme il nous les a laissées dans les épîtres, mais à une intégration personnelle de cette théologie. Et on peut juste lire 2 Timothée 3, verset 10 par rapport à ça.
Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance.
Timothée a pu observer Paul, mais il ne s'est pas contenté d'observer cela. Il a fait sien. Il a basculé du mode de pensée Paul qui me dit « Ah, c'est ce que je crois vraiment réellement dans mon cœur. » Et quelque part, c'est aussi quelque chose qu'on est tous appelés à faire, c'est-à-dire de ne pas faire comme quelqu'un d'autre, mais de faire parce qu'on a une conviction du Seigneur vis-à-vis de ces choses-là. De ne pas croire l'une ou l'autre doctrine parce qu'on m'a toujours dit que c'était comme ça, mais de s'intégrer ces doctrines et ces connaissances bibliques, que ce soit vraiment sien, que ce soit pas quelqu'un d'autre, parce que le sosie est faux et parce que trop de dépendance peut faire basculer aussi parfois. Parce que quand le modèle chute, qu'est-ce qu'on va faire nous? Vous voyez? Et je pense que c'est, moi, sa dernière leçon de joie de Timothée, que ce n'était pas simplement un homme derrière Paul, mais quelqu'un qui a eu un ministère brillant pour Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres choses, d'autres pensées qui vous viennent à l'esprit avant qu'on passe au moment de temps de prière. Ouais, Ricardo.
Dans la phase finale de Timothée,
ouais.
Tout à l'heure tu as dit qu'il était ancien.
C'est pas dit à proprement dit, c'est vrai, je te l'accorde. Mais il semblera en tout cas qu'à Éphèse, Paul lui dit de tenir un rôle pastoral dans l'église d'Éphèse. Mais le terme ancien n'est pas utilisé. Maintenant, il me semble que Paul a établi les anciens dans toutes les églises qu'il a fondées. Donc, je vois pas pourquoi il y en avait à Éphèse, puisque quand il fait son troisième voyage de retour, où il sait qu'il va être quelque part l'esprit lui annonce qu'il va se passer quelque chose de spécial à Jérusalem. Paul ne veut pas s'arrêter à Éphèse pour pas perdre trop de temps à l'église et fait venir les anciens. C'est-à-dire qu'il y a des anciens à ce moment-là dans l'église. Timothée ayant une charge pastorale au sein de l'église, j'imagine qu'il travaille en collaboration avec les anciens.
Il avait aussi ce rôle d'enseignant des évêques et des diacres. Donc,
tout à fait.
Pas mal quelqu'un qui n'a pas la charge d'ancien enseigner l'ancien à dire comment il veut se tenir.
Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, on est d'accord. Forcément, Timothée. Paul ayant reçu, Paul étant l'homme qui a établi la doctrine de l'Église quelque part par le Saint-Esprit, Timothée étant son disciple plus fidèle avait une connaissance de cette doctrine plus précise que beaucoup. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il pouvait aussi enseigner les anciens. Et logiquement, il avait une collaboration avec eux, bien sûr.
Moi, je vois deux choses aussi, c'est que ça vaut la peine de souffrir pour la doctrine de l'Évangile. Et que dans la diversité de ministères qu'il a pu exercer, il n'a jamais perdu l'objectif de faire des disciples pour la gloire de Dieu.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut dire que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. On n'est pas tous appelés forcément à.
On n'est pas à rechercher. Je pense qu'on n'est pas à rechercher la souffrance. On est.
L'évangile, mais il y a des souffrances qui vont avec.
Tout à fait. On est appelé. On n'est pas appelé à rechercher la souffrance pour la souffrance ou pour montrer qu'on serait plus spirituel qu'un autre ou quoi que ce soit. Mais on est appelé à être digne de l'évangile et à être capable de supporter la souffrance qu'il faut. Mais la plupart du temps, on le voit bien dans tout le parcours de Paul, de son équipe, la plupart du temps, la première chose qu'ils ont fait, c'était la fuite. C'est ils n'étaient pas non plus à chercher les problèmes pour avoir plus de problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion-là. Ils quittaient la ville aussi quand il y avait trop de soucis pour que l'Église puisse aussi s'établir plus tranquillement, parce que la persécution ne visait pas forcément d'abord l'Église, mais le ministère de Paul, parce qu'il annonçait l'Évangile aux non-juifs. Mais après, une fois que les non-juifs avaient... Il y avait sans doute des persécutions aussi, mais sans doute moins intenses. En tout cas, la stratégie de Paul, c'était souvent de quitter l'Église pour avoir plutôt une accalmie pour l'Église, souvent.
Un point qui me touche plus particulièrement, mais c'est vrai que Timothée est devenu adulte dans la foi, on le voit vers la fin de sa vie, mais on voit que Timothée, bon, c'est Timothée, celui qu'on voit à la fin, s'il n'y avait pas eu un Paul.
Moi aussi, oui. Oui, il y a eu un
Paul qui lui a fait confiance, qui lui a donné quelque part un enseignement qui dépasse toute chose, parce qu'il lui a dit viens avec moi, et quelque part ça n'a pas été juste un enseignement avec la Bible ou un enseignement juste oral, mais il lui a montré en faisant avec lui, et je trouve que c'est un modèle
de relation. Tout à fait. C'est une leçon que j'ai failli ajouter mais que j'ai pas voulu ajouter parce que pour pas mettre l'accent sur Paul, mais c'est vrai que c'est un modèle de relation de disciple à mentor, cette relation-là, mais qui reste quand même en vue que Timothée soit capable indépendamment de Paul de faire des choses aussi.
En fait,
il n'y avait pas d'emprisonnement entre les deux.
C'est calqué sur le modèle de Jésus, ce qui fait que ses disciples. Dans 2 Timothée 2:2, là, il dit quand même ce que tu as entendu de moi.
Oui.
En présence de vos témoins, confie-le des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il est bien question là aussi d'un ensemble de connaissances spirituelles, théologiques, bibliques, dont Paul a armé Timothée. Et c'est pour ça aussi qu'il a pu lui confier la tâche de réfuter les fausses doctrines à
Éphèse,
parce qu'il était costaud dans sa connaissance aussi. Il y a les deux.
chrétienne, entre la pratique et aussi la connaissance de la parole de Dieu, de la, saine doctrine.
Est-ce qu'on a des indices qui seraient supposés être votés par une femme qui a des enfants?
Ok. Il semblerait qu'il restait célibataire, mais en tout cas pendant les voyages de Paul, après il est resté célibataire, il n'y a jamais mention de... Et puis Paul, à un moment donné, parle de lui en tant que célibataire, et quelque part, il parle aussi, il me semble, de son équipe qui est célibataire vis-à-vis de Pierre, qui est marié et tout. Donc, j'imagine que Timothée est célibataire après, parce qu'il est resté célibataire toute sa vie. C'est pas... On lui demandera. On passe au temps de prière. Merci.
Merci.